Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Dans cet épisode, je reçois Margot, 30 ans, et avec elle, on parle de son rapport à l'amour très romanesque, de la fuite de la réalité à travers ses histoires d'amour, de grossophobie, de rapport au corps et de rapport biaisé à la sexualité, du syndrome de l'infirmière, du début des applis de rencontre avec Adopt et du chassé-croisé qu'elle a eu pendant 10 ans avec son copain actuel. Merci beaucoup à Margot pour sa confiance et si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute.
Ok, alors, on est avec Margot aujourd'hui.
Bonjour
Léa. Bonjour Margot. Je suis très contente de t'avoir. Tu m'as envoyé un petit mail pour me dire « Salut, j'aimerais bien participer ». Je te dis « Bah ouais, avec plaisir ».
Viens donc chez moi.
Et on est là.
Et on est là aujourd'hui.
Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, me dire comment tu t'appelles du coup Margot ?
Tout à fait.
Quel âge tu as, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je m'appelle Margot.
Ouais.
AUX, comme un bon vin, n'est-ce pas ?
Et non Margotte.
Et non Margotte. Mais les Margottes, beaucoup de respect pour les Margottes,
oui.
Sachant que c'est très royal comme prénom. Donc,
oui.
On est tout ensemble. Et j'ai 30 ans, je viens de les avoir en janvier.
Ah, quand en janvier, moi aussi
Le 4 janvier.
Ah, le 7, Capricorne.
Et ben voilà, Capricorne.
Ravie.
Et c'est... non, mais j'aime beaucoup mon anniversaire, en plus. Je trouve que c'est cool, même si, voilà, c'est pas facile hein, d'être
né
début janvier. Vraiment.
Parce que t'enchaînes Noël, Nouvel An, et là, t'es là, hey, on va quand même fêter mon anniversaire ou quoi?
Bah, c'est ça. Et tout le monde t'oublie, tout le monde est en full overdose de,
bah, oui, de fêtes. Machin.
Plus personne n'a envie de festoyer.
Bah ouais.
Tout le monde s'en fout, ça y est, c'est l'hibernation totale pour la plupart des gens.
Et en plus, c'est, du coup, le 4, c'est souvent la rentrée pour toi, j'imagine.
Mais tout
des
à
vacances.
Fait. Exactement.
Ça, c'est chiant.
Puis en plus, t'es encore en ego trip de te dire, mais c'est mon anniversaire, célébrez-moi. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait là, en si bon chemin. Et tout le monde, laisse tomber. Donc, tu es seule avec ton début d'hibernation et voilà, et les 30 ans tombent à ce moment-là. Et du coup, ouais, ça a été une année un peu particulière parce que c'est la première année où, du coup, je l'ai faite à Nantes, où maintenant j'habite, après plusieurs années sur Paris et en région parisienne.
Tu viens de Nantes à la base, enfin de la région ?
Je viens, en fait, j'ai grandi entre Versailles et Nantes.
Ok. Et entre, parce que tes parents étaient séparés
Mes parents étaient séparés.
Okay.
Et du coup, adolescence à Versailles.
Okay.
Très important dans l'histoire. Dans la construction, ça a beaucoup joué. Et puis Nantes aussi, qui est une ville assez chouette. Donc, de grandir entre deux villes, en fait, ça apporte pas mal de choses.
Ouais.
Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et donc là, j'ai voulu aller y vivre un peu sur un coup de tête. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être là-bas maintenant. Et puis, c'est vrai que d'être près de la mer, tout ça. Je vis avec mon amoureux depuis pas longtemps.
Ouais.
Donc là, on vit enfin ensemble. Donc, c'est vraiment sympa.
Et du coup, tu fais partie de ces Parisiens qui ont débarqué à Nantes.
Voilà.
Et du coup, les Nantais et les Nantaises sont un peu là, au secours.
On fait profil bas, on sort dans la nuit.
Et tu te dis, ça va, j'ai grandi quand même ici.
Voilà. Mais vraiment, il y a plein de moments où je me retrouve à dire, mais laissez-moi tranquille. Je connais, je suis une Nantaise de souche, je peux vous citer les marchés, je peux vous citer des endroits, je ne suis pas une touriste, laissez-moi tranquille.
Et puis on peut être parisien et sympa, comme moi
mais
par
exactement,
exemple.
Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas cracher sur Paris.
Mais
enfin, Paris, c'est une ville où on se construit beaucoup, il y a beaucoup d'adrénaline, on vit plein de choses, et souvent à 1000 à l'heure, et je pense qu'il y a plein de vécus différents, plein d'histoires, et moi je suis très heureuse d'avoir vécu à Paris, dans le 10e arrondissement.
Ouais.
Donc, c'était vraiment une chouette époque et voilà, c'était histoire de partir parce que quand tu grandis aussi en région parisienne, t'as envie de voir autre chose de temps en temps. Mais le fait que ce soit pas très loin aussi, de revenir, de pouvoir en profiter, c'est top.
On est là aujourd'hui pour parler d'amour, Margot.
Oui.
Est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour aujourd'hui ?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai essayé un peu de m'interroger avant qu'on fasse cet échange. Je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus apaisé parce qu'il a été très, très longtemps conflictuel. Et on en parlait aussi hier soir avec des copines et ma sœur. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand on fait un peu une auto-analyse de soi et de se dire, à 30 ans, tu fais un petit peu un point.
Grave.
Donc, se dire que voilà, ça faisait longtemps en fait, que je m'étais sentie pas forcément très, très bien dans mes rapports amoureux. Depuis 10 ans, il y a beaucoup plus eu de moments douloureux que de moments joyeux. Et là, j'ai un rapport à l'amour qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, avec beaucoup de tendresse. Et c'est un peu ce que représente ma relation actuelle en ce moment. Et en plus, c'est assez drôle parce que la personne avec qui je suis actuellement, c'est une personne que je connaissais aussi il y a 10 ans, que j'ai rencontrée il y a 10 ans. Et on a fait des chassés croisés un peu pendant ces années. Et il y a vraiment eu cette évolution avec lui aussi de mon rapport à l'amour qui a aussi lui-même évolué.
Et ça veut dire que donc tu l'as rencontré il y a 10 ans, c'était dans quel contexte? Et à ce moment-là, vous étiez ensemble ou pas du tout?
Alors,
juste
au tout début, en fait, on va partir de Versailles.
Ouais.
Parce que moi, j'étais au lycée dans un lycée public de Versailles.
Ouais.
Et j'étais un peu en grosse phobie scolaire,
okay.
Grosse dépression. Et je faisais un peu tout pour fuir cet environnement-là.
Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est que la phobie scolaire?
La phobie scolaire, en fait, j'avais un trouble anxieux qui était totalement lié en fait, au contexte scolaire. Ça se manifestait sous plusieurs formes. La présence en cours, la peur du travail scolaire qu'on te demandait,
okay.
La pression liée aux notes, la pression liée aux professeurs, aux avis, aux commentaires et puis aussi aux camarades de classe.
Ouais.
Il y a eu pas mal de un peu de harcèlement, mais plus j'ai pas été harcelée comme sous forme, enfin il y a pas eu cette forme d'harcèlement avec violence verbale, violence physique comme peut-être beaucoup de gens ont connu.
Ouais.
Mais voilà, quand j'arrivais au lycée, j'étais très isolée, j'avais pas forcément d'amis, j'étais pas forcément intégrée auprès de mes camarades et ça a été très très difficile. Je séchais beaucoup les cours. Je fuyais absolument cet endroit. J'avais toujours une boule au ventre et j'ai une anxiété réelle qui s'est développée physique à l'idée d'aller en cours. Donc j'avais la fuite.
Okay.
C'est-à-dire je partais. Généralement, je partais à midi si je tenais la matinée.
Okay.
Et j'allais regarder Hercule Poirot chez ma grand-mère.
J'aime bien l'anecdote.
14h sur TMC. Et j'étais en mode, oh non, l'épisode a commencé.
Oh, bah alors, il faut que je reste.
Voilà, exactement.
L'intrigue est énorme.
Exactement.
Et donc, ça a commencé à se développer au lycée ou t'avais ça aussi?
J'avais ça avant, mais je pense que j'ai pas mis. Déjà, à cette époque-là, je mettais pas de mots dessus. Hein. C'était subi complètement. Il y avait vraiment une notion d'obligation totale, obligation parentale.
Ouais.
On n'en parlait pas beaucoup. Et je pense que ça a laissé une grosse blessure, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'obligation d'aller en cours, c'était tout ce qu'on me demandait, parce que on était quand même. Mes parents travaillaient tard, donc je les voyais pas beaucoup. Donc en fait, tout tournait un peu autour des notes, tout tournait autour de ce qu'ils nous demandaient de notre devoir à l'école. Et en fait, moi, je recevais tout le temps le côté « Oui, votre fille, c'est une rêveuse, elle est très artistique, machin, elle lit beaucoup, enfin, je lisais beaucoup de livres. » Mais elle est très intelligente, mais elle ne fait rien.
Ouais.
Mais c'était pas que ça. Enfin, moi, j'avais vraiment un blocage de ce qu'on me demandait dans les devoirs, dans la présence en cours. Et ça a été traité un petit peu psychologiquement bien des années après, avec le terme phobie scolaire.
Justement, j'allais te demander, à l'époque, on t'a pas dit que c'était ça ce que tu vivais, le terme de phobie scolaire?
Non,
c'était pas commun, tu penses, à l'époque ou comment...
Je pense qu'avec le recul, maintenant... Il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui mettent des mots là-dessus.
Mm.
Mais c'est vrai que pour l'anecdote aussi, je suis tombée aussi, par exemple, sur des vidéos YouTube où des personnes en parlaient et leurs parents ils ont été déscolarisés.
Ouais.
Ils ont fait des cours à distance, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu ça, par exemple.
Okay.
Moi, je suis allée au bout, j'ai eu mon bac.
Difficilement.
Très difficilement. Ouais. Ça a laissé plein de marques et aussi... Ouais. Des vieilles... j'ai une phobie d'entreprise maintenant, tu sais, ça continue, la notion de travail, elle n'est pas saine du tout.
Okay.
Et du coup, voilà, je pense qu'il y a eu un manque. Et à cette époque, du coup, j'avais plusieurs échappatoires.
Mm-hmm.
Et quand j'ai... En fait, je faisais des cours de théâtre. Et c'est là où mon rapport amoureux a commencé.
Okay.
Parce que j'avais cette activité extrascolaire. Et c'était génial parce que on était un groupe d'adolescents et on a un peu grandi ensemble. Tu vois, on a commencé à 13-14 ans. Et après, on était tous au même cours quand on a eu 15-16 ans et que vraiment, tu sais, les premiers émois commencent.
Mmh.
En plus, on jouait des pièces où on faisait souvent des couples. Enfin, il y avait beaucoup de scènes aussi... enflammée dans la littérature théâtrale où c'était vraiment des monologues amoureux, ouais. Il y avait un peu de burlesque aussi. Et en fait, on en jouait beaucoup. Enfin, okay. on adorait justement flirter à travers les textes. Et on était dans un contexte, on a fait n'importe quoi. On était dans un ermitage religieux. Okay. Donc, il y avait des prêtres et des bonnes sœurs. Oh, dans ouais. Mais le prof de théâtre louait une salle pour qu'on puisse jouer là-bas.
Ok.
Et nous, on faisait des strip frisbee dans le bois.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On avait trouvé un frisbee et puis en fait, on se lançait des challenges un peu érotiques. Je sais pas, on se découvrait, tu vois, ouais. Les corps féminins, masculins, sans aller trop dans le ouais. quelque chose de malsain, mais c'était vraiment bon enfant, tu vois. On trop flirtait bien. Beaucoup, on était tous amoureux les uns des autres. On s'écrivait des lettres enflammées, il y en avait qui ramenaient des littératures érotiques, enfin c'était n'importe quoi,
c'est marrant,
c'était
quand même.
Trop drôle. Mais avec le recul, je me dis, mais on était vraiment, on n'avait pas de limite quoi.
Ouais.
C'est là où c'était une bulle de respiration pour tout le monde, parce qu'on n'était ouais. pas dans les mêmes écoles, dans les okay. mêmes lycées. Donc on parlait de nos histoires, de crush, de ce qui se passait et tout ça. Et puis moi, j'étais tombée folle amoureuse de Christophe, que j'appelais Monsieur le Comte, parce que j'étais complètement perchée. Moi, je lisais beaucoup et en fait, mon rapport à l'amour à cette époque-là, il était extrêmement romanesque.
Ok.
En plus, j'étais pas très populaire. Il y avait beaucoup de grossophobie.
Ouais.
Donc, je suis une femme quand même assez grosse et je plaisais pas du tout. Et du coup, en tout cas, personne n'a jamais. En plus, j'étais dans un lycée qui était plus féminin que masculin.
Ok.
Donc voilà, moi, l'amour au lycée, il était inexistant. Donc, c'était dans mes livres et au théâtre. Que ça s'est développé.
Okay.
Et j'ai commencé à avoir mes premiers émois amoureux à ce moment-là, qui sortaient un peu de mes livres, hein, parce que moi, j'étais la personne qui était amoureuse des personnages de fiction.
Ok.
mais avec une fois, le héros de mon livre s'est marié, j'ai refermé le livre en mode « c'est horrible, quoi
!» Carrément, okay.
Genre, je vivais le truc, mais avec une sensibilité et une fougue amoureuse sur... Et vraiment, ça, j'écrivais des fanfictions, j'avais okay. un rapport voilà, ultra... Mais même en général, je suis très sentimentale, c'est-à-dire que j'ai cette notion de fan qui dévoue... Il y a une dévotion voilà, sur les artistes que j'aime, voilà, j'entretiens vraiment quelque chose au niveau de la dévotion.
Okay.
Et quand tu veux fuir ta réalité, ça se décuple ouais. un petit peu.
Mm.
Et en fait, j'ai été monsieur le comte Christophe de Thulois, cette chère personne qui est encore dans ma vie, c'est un super ami à moi maintenant. Et c'est vrai que, Christophe, à cette époque-là, j'étais très amoureuse de lui, mais il avait une copine
okay.
dans son lycée.
D'accord.
Et c'est parti en lui déchiré d'amour entre deux femmes. Moi qui lui écris des lettres en mode « qui choisis-tu ?» Enfin, ouais. c'était complètement biaisé. C'était très drôle.
Mais... Et alors finalement, il est resté avec sa copine ou...
Il est resté avec sa copine.
Okay. Comment toi, tu l'as vécu?
Mal, ouais. Très mal. J'ai saigné des pages de journal intime.
Ouais.
On a été très... moi, j'ai été affectée par ça.
Ouais.
Et en fait, j'ai rencontré aussi à cette époque des gens plus âgés,
okay.
justement à travers le théâtre.
Mm-hmm.
Parce qu'il y avait des cours en commun qui avaient ouvert dans mon lycée, justement. Et mon cours, comme c'était un cours jeunesse de théâtre, ça s'arrêtait vers 15-16 ans. Et en fait, du coup, j'ai rencontré d'autres personnes plus âgées, qui avaient déjà quitté le lycée. Et okay. ça a été la révélation, tu vois, d'avoir des potes un peu étudiants.
Mm.
Et en fait, c'était les débuts aussi des... Enfin, je ne sais pas si vraiment les débuts, parce que ça a toujours existé, même depuis le Minitel ou quoi, au caisse. Mais pour une lycéenne, je me suis mise sur les apps de rencontre. Notamment, okay. à l'époque, c'était Adopt.
Ok, ouais.
Parce que je ne voulais pas du tout avoir quelqu'un de la ville. Ouais. Ça m'avait vaccinée aussi d'avoir un amoureux à Versailles, parce qu'à Versailles, c'est une petite ville et tu croisais tout le monde.
D'accord.
Donc Christophe, le cœur brisé, je le croisais au bar du coin, copine. Si tu veux. C'était terrible.
Ouais.
Aux soirées, tout ça. Et donc, je me suis mise sur l'application.
Ok.
Et poussée un peu par mes potes plus âgés qui, eux-mêmes, avaient des histoires là-dessus, quoi. Et j'en parlais pas à mes parents, tu vois, c'était secret, Internet, c'était encore...
Oui, en plus, c'était cringe, un truc qui n'était pas connu, des applications de rencontre, tu peux rencontrer des inconnus, comment ça, comment c'est possible? D'ailleurs, je me demande si ça existe encore, Adopt.
Ça existe encore, mais le site a beaucoup évolué. Parce qu'au début, c'était ultra subversif. Enfin, il se la jouait très, très subversif. C'était pas encore payant, je crois, pour les hommes à la base. Mais il y avait ce côté marketing très assumé de les femmes qui choisissent.
Oui, parce que le mec est dans le caddie, là. C'est ça, le logo du truc.
Le mec est dans le caddie, ouais, exactement.
Ouais, j'ai fait mon petit marché, hop, toi, je te prends.
Mais c'est vrai que dans ma tête, pour moi, c'était, ça donne l'occasion de rencontrer des gens qui ne sont pas dans la ville, quoi. Qui ne sont pas là. Et je commence timidement, tu vois, à faire des rencontres. Et en fait, il faut rappeler que à ce moment-là, moi, j'étais toujours dans un état qui était, enfin, trouble anxieux généralisé, très basse estime de moi-même parce que rejetée aussi d'un environnement qui fait que, enfin, on y allait longtemps au lycée. Enfin, tu sais, ça durait de 8h à 18h. Ouais. J'y passais ma journée. Le soir, je me faisais engueuler par mes parents. Donc, il y avait un rapport très conflictuel à l'époque et ça me donnait une très, très basse estime de moi-même. En plus, quand tu grandis en étant grosse, t'as ce rapport au corps qui est complètement biaisé. Mmh. Moi, j'étais en totale dysmorphobie avec une dysmorphobie, c'est quand t'as une image de toi-même qui est pas réelle.
Qui représente pas, ouais.
Quand tu grandis en étant un peu rondelette, typiquement, et que les TSA se développent par le regard d'autrui. À l'adolescence, j'ai fondu, j'ai grandi, mais en fait, je me voyais toujours beaucoup plus grosse que je ne l'étais.
Ouais.
Et à l'époque, c'était négatif. Le fait d'être grosse, il y avait quand même cette grosse notion de grossophobie avec laquelle tu grandis. Et l'estime de moi-même complètement basse. Surtout en plus premier rejet amoureux, donc c'est le drame, drame sentimental.
Et puis à l'époque on parlait pas de grossophobie, on parlait pas de tout ça. Maintenant c'est vrai que c'est bien parce que quand même il y a un mot qui est posé dessus, il y a des consciences qui changent, mais c'est vrai qu'à l'époque t'étais un peu
On en parle, même déjà rien que de dire le mot grosse, tu vois, à l'époque c'était terrible pour moi, jamais c'était évoqué, et en plus surtout à l'adolescence je ne l'étais pas, mais mon corps en fait ne m'appartenait plus, tellement je changeais, aussi c'est la puberté, tu vois, donc il y a ça aussi qui se rajoute, c'était pas simple. Et ça a amené directement à un rapport conflictuel à l'amour et au sexe, notamment, qui à l'époque, pour moi, était très lié, parce que j'ai très peu eu de sas d'insouciance vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que dès que je rencontrais des hommes un peu... Enfin, dès que je rencontrais quelqu'un sur l'application de rencontre, tout était extrêmement sexuel.
Ok.
En plus, moi, j'étais hétéro, donc j'allais pas vers autre chose que des profils masculins. Et je fantasmais beaucoup à travers les applications de rencontres. Je tombais sur des profils avec des descriptions. Ils me plaisaient ou pas. Et je m'en faisais toute une histoire dans ma tête.
Ouais.
Et quand la rencontre venait, c'était très compliqué. Enfin, il n'y avait pas d'attente, en fait. On n'attendait pas de se connaître, tu vois. C'était vraiment déjà, à ce moment-là, je tombais sur des personnes qui ne voulaient rien d'autre... que d'une aventure sexuelle.
Et toi, à cette époque, tu voulais autre chose qu'une aventure sexuelle ou tu étais OK avec
Je pense que j'avais cette intention d'être sexuellement active assez tôt pour pouvoir explorer ça. Mmh. Enfin, j'étais assez fascinée par le sexe, mais je pense que c'était assez malsain, en fait, avec le recul.
Okay.
Parce que pour moi, c'était aussi de la dévotion et de la soumission totale parce que j'avais pas d'estime de moi-même et que j'avais besoin de cette validation. Que si j'étais douée au lit dans ma tête, c'était pour moi une sorte de validation de la part de l'homme pour pouvoir être aimée, quoi.
Oui, mais d'abord passer par l'étape sexe.
D'abord passer par là. Et ça a été très dur parce qu'en fait ça s'est reproduit et je pense que je me mettais dans des situations très humiliantes et très difficiles avec des choses que des fois je voulais pas faire, puis j'étais jeune et j'avais souvent j'ai commencé vers 16-17 ans et je pense que à l'époque je pensais maîtriser en tout cas ce que ça me faisait ou non, je pensais avoir le contrôle et en fait avec le recul je pense que ça m'a vraiment ça a créé quelque chose de très bizarre avec ce rapport là. Et vraiment, je pense que je me suis fait mal en faisant tout ça. Enfin, j'ai ouvert une grosse blessure de me soumettre totalement. Des fois, je faisais des choses que je ne voulais pas faire. Je m'adaptais beaucoup aux garçons et aux hommes que je rencontrais. Donc, c'était de faire 2 heures de transport à travers tout Paris, alors que je ne bougeais pas de ma banlieue pour aller les retrouver, qu'eux, ils bougeaient pas, qu'ils m'accueillaient pas. Tu vois, il n'y avait pas de rapport de gentillesse, ouais. En tout cas, avec les profils que je rencontrais.
Et tu disais que tu étais vachement angoissée et tout à cette époque, mais tu n'étais pas angoissée de faire ces rencontres de personnes que tu connaissais pas.
Je pense que non. Mine de rien, je pense que j'avais... C'était vraiment cette intention de fuir absolument. Et ça me sortait totalement de mon quotidien.
Okay.
Et je pense qu'il y avait un peu, tu sais, cet entretien... Enfin, je m'entretenais là-dedans pour ressentir des choses aussi.
Okay.
Et ça me donnait un peu l'adrénaline qui me permettait de fuir. Et ça me donnait des sensations, ça me donnait de la matière aussi pour écrire, pour me sentir vivante, tu vois. C'était une façon pour moi de faire ça. Et vraiment, en plus, à ce moment-là, moi, je fantasmais totalement l'amour et j'attendais une belle histoire. J'étais quand même sentimentale et assez idéaliste. Mais c'est vrai que je me suis confrontée à une réalité que j'aurais bien aimé ne pas vivre forcément à cette époque-là.
T'étais pas trop déçue du coup après chacune de ces rencontres ?
Si, mais honnêtement, j'arrivais à me convaincre que ça allait évoluer en bien et que parce que comme j'étais douée, comme le plaisir était là pour eux, ils allaient m'apprécier, ils allaient m'aimer quoi. Dans ma tête, c'était pour arriver à ça quoi. Puis bon, il n'y a pas eu que des plans. Plan foireux, il y a eu aussi un copain qui a fini par me tromper. Enfin, il y a eu que des histoires comme ça au lycée. Jusqu'à ce que la première histoire vraiment importante qui est arrivée, c'est la rencontre notamment avec mon copain actuel.
Oui.
Que, du coup, j'ai rencontré en terminale. Enfin, j'étais au début de ma terminale. Et pour le coup, là, c'était beaucoup plus doux au tout début.
Mais alors, donc t'étais avec lui au lycée ?
En fait, je l'ai rencontré. Non, en fait, je l'ai rencontré sur une application pendant que moi j'étais au lycée et lui était étudiant.
Ok.
Donc il était plus âgé que moi, mais de pas beaucoup, tu vois. Moi j'avais, 18 ans et lui en avait 21, 22.
Ok.
Et en fait, il habitait pas très loin. Il était à la faculté pas très loin aussi. Mais il y avait quand même un petit RER, tu vois, entre nous. Et rien que ça, pour moi, c'était Alice au Pays des Merveilles, tu vois. C'était, il avait son appartement, l'étudiant, libre, avec un groupe de potes, beaucoup plus sain. On se rencontre à Nantes, parce qu'il était de Nantes.
Okay.
On se rencontrait juste avant les fêtes de Noël. Et franchement, ça a été un peu... Enfin, c'était hyper doux. Le premier rendez-vous qu'on a eu était hyper agréable. Très très mignon, il y a eu un bisou qui était super doux, il n'y avait pas de pulsion, je sais pas comment expliquer, mais je sentais que c'était vraiment quelqu'un qui voulait te connaître et qui voulait aussi quelque chose, avoir une copine, quoi. Enfin, ça se sentait. Et on s'est revus à Paris, parce qu'en plus, il y avait ce côté, on est tous les deux de Nantes et Paris, il y a des points communs familiaux, il y a des points communs de notre vie. Alors lui, il trouvait ça un peu bizarre que je sois au lycée, mais comme j'étais tellement détachée à cette époque-là du lycée, il était en mode, elle est cool, ça va, quoi. Elle a bientôt... En plus, moi, j'avais redoublé, donc du coup, j'avais bientôt 19 ans en janvier. Je me sentais un peu en dehors, quoi. Et en fait, notre histoire n'a pas duré très longtemps.
Okay.
Parce que quand t'as des vieux démons, que t'es pas hyper bien dans tes bottes, en fait, moi, j'ai surcompensé le fait que j'étais malheureuse. Pour tout lui de... Enfin, j'étais en ultra-dépendance de lui, affective, et je lui demandais beaucoup, beaucoup. Je fuyais complètement ma réalité dans son appartement. Je débarquais chez lui après une dispute avec mes parents. Tu vois, j'ai fait un énorme pas dans sa vie qui était... je lui demandais beaucoup, très vite. Et en fait, notre histoire, elle a duré 4 mois, à peine. 3-4 mois, ce qui... Bon, sur une échelle du lycée, c'est énorme.
Oui, ouais.
À l'époque, mais en fait, finalement, c'était pas grand-chose, quoi.
Et comment ça se traduisait, pour revenir sur ce que tu disais, la dépendance affective pendant ces 3-4 mois, c'était quoi pour
toi ? Pour moi, à ce moment-là, je l'appelais beaucoup, on couchait beaucoup ensemble.
T'avais besoin de son contact.
J'avais besoin du contact, je voulais tout le temps dormir chez lui... quand il était avec ses amis, je voulais qu'il me les présente. Je lui demandais d'être là pour moi. Tu vois, quand j'avais des crises d'angoisse, il fallait qu'il soit là. Enfin, tout de suite, très très vite, quoi.
Et ça,
très intense.
Vous en parliez entre vous ou c'était quelque chose que tu réalisais pas trop tu vois.
Pour le coup, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que à ce moment-là, en plus, je voyais une psy.
Ok.
Et qu'elle m'avait dit, oui, mais c'est pas normal qu'ils vous répondent pas. Enfin, tu vois, parce que je lui envoyais des textos, mais il me répondait pas. Donc, il y avait un rapport qui était complètement décalé. Et je pense qu'il s'est éloigné de moi aussi à ce moment-là. Ouais. Parce que on vivait pas la même chose, déjà, de base. Et puis, vraiment, c'était lourd à porter, je pense. Après, ça aurait pu évidemment se passer différemment. Il a eu ses torts aussi à cette époque-là. Mais on va dire qu'avec le recul, je me rends compte que je n'étais pas du tout disposée à avoir une basse scène d'une relation et que c'était complètement disproportionné. Quoi.
Et là, c'était la première fois du coup qu'il y avait un garçon qui semblait amoureux de toi ou que tu recevais voilà. de l'amour de la part d'un garçon.
Je recevais de l'amour et puis même moi, j'étais très amoureuse aussi. Et tu vois, pour le coup, ça c'est un moment très étrange de ma vie sur lequel je n'arrive toujours pas à vraiment mettre des mots dessus.
Ok.
Mais pour donner un exemple de à quel point c'était malsain à ce moment-là, genre il m'a appelé et tu sais, je sentais la rupture. C'est parce que d'habitude, c'est moi qui venais tout le temps chez lui. Et là, il m'a dit, il faudrait que je me déplace, que je vienne te voir. Okay. Et là, je le sentais, mais genre, je m'y attendais et ça me soulageait presque parce que ça allait arrêter la tension qu'il y avait entre nous.
Ouais.
Et là, je me suis dit, et au téléphone, je fais non. J'arrive. C'est moi qui viens, comme ça. Et en fait, il m'a largué, mais de façon très... on en a discuté, il m'a dit, je ressens pas la même chose que toi, ça va trop vite pour moi, enfin, il a été... voilà. Et moi, la seule chose que... J'ai provoqué un rapport sexuel, alors que je venais de me faire larguer en direct. Et pour moi, c'était en mode, viens... On fait l'amour une dernière fois. Et ce rapport était extrêmement douloureux. Enfin, il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait rien. C'était d'une tristesse monumentale. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en partant. Et j'étais, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois ? J'en ai un souvenir très, très précis. Alors que la relation juste avant, pas vraiment.
Ouais.
C'est assez fou. Et bon, ça s'est terminé, du coup, cette histoire. Et en fait, j'ai eu un autre copain entre-temps.
Ok.
Juste après. Le copain de la fin du lycée.
Pourquoi tu dis ça comme ça ?
Bah parce que vraiment, ça a été mon copain qui a été là pour le bac.
Okay.
Et c'était une première vraie relation. Mais il fumait beaucoup d'herbe.
Okay.
Et c'était très compliqué. Et il était très, 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 enfin, il était très, très dépressif aussi.
Okay.
Et là, j'ai eu un peu le complexe de la sauveuse, tu vois, vraiment de le sortir de là. Je m'isolais beaucoup puisqu'il avait une maison à la campagne.
Okay.
Et tout le temps, en fait, je me suis éloignée des amis que j'avais. J'allais passer du temps là-bas. Et en fait, c'était devenu très, très morne et assez triste.
Tu peux expliquer peut-être le syndrome de la sauveuse, ce que tu entends par là ?
En gros, je voulais absolument. Je faisais un peu son infirmière psy.
Ouais.
C'est-à-dire que je voulais tout le temps m'assurer qu'il aille bien, que physiquement il avait tout ce dont il avait besoin. Donc ça passait à je t'apporte de la nourriture, de l'eau, je t'apporte un soutien moral et psychologique tous les jours. Donc j'essayais de le faire parler beaucoup, je l'écoutais beaucoup, j'étais tout le temps à son écoute. Je lisais des livres pour lui sur les addictions. Enfin. Il y avait vraiment ce côté, je veux te sortir de là et c'est moi qui vais réussir à y arriver et après on sera heureux.
Et voilà, c'était quelque chose que lui te demandait ou toi toute seule?
C'était moi toute seule, je me suis dit, je me suis dit, voilà, je vais l'aider et c'est comme ça qu'il va m'aimer. Enfin, il y avait vraiment ce. À chaque fois, ma conclusion, c'était, je vais échafauder un plan dans ma tête pour arriver au sentiment amoureux.
Okay.
Qu'on m'aime en retour.
Ouais.
C'était ça.
Et à la fin, tout ira mieux, on sera heureux. Et
exactement. Voilà. C'est grâce à moi, il avait des problèmes avec son père. Alors, moi aussi, j'avais des problèmes avec mes parents, tu vois, même très conflictuels. Mais pour autant, c'était ses problèmes à lui qui comptaient avant tout.
Toi, tu te mettais en retrait.
Je me mettais en retrait, c'était que lui. Mes parents, ils trouvaient. En plus, on est partis. Enfin, j'ai fait des trucs. Je commençais à fumer aussi avec lui.
Ok.
Et je pense que ça ne m'a pas aidée. Je fumais un peu d'herbe. Et pour le coup, ça m'a fait beaucoup grossir à cette époque-là. Regrossir. Parce qu'en fait, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire aussi à ce moment-là. Donc, ça entretenait une trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire que j'avais un rapport à la nourriture qui était très conflictuel. Le fait que je voyais aussi les garçons manger comme ils le voulaient, alors que moi, j'avais toujours été en restriction. Je trouvais ça hyper injuste et en fait, je me suis mise à manger pareil. Et avec l'herbe, en fait, t'as tout le temps faim. Enfin, moi, ça me donnait très, très faim. Et du coup, ça a entraîné tout un truc. Et voilà, cette relation m'a beaucoup isolée de plein de choses. J'ai eu mon bac quand même, parce que c'est toujours le fameux truc qui n'en finit pas. Il fallait avoir le bac, c'était la fin. Et je l'ai eu, finalement, j'ai quand même réussi à réviser et avoir ce fameux diplôme. Mais ma relation avec cette personne n'a pas vraiment duré. On est quand même resté un an ensemble.
Quand même, ouais.
Mais il m'a larguée aussi. Okay. Je me suis fait une deuxième fois larguer de façon assez brutale en plus, enfin très douloureuse. Bah en fait, je pense que je sais. Enfin, il m'a donné des raisons sur le fait qu'il n'était pas bien, que. Ouais. Mais en fait, il m'a rendu un peu service parce que oui. Là arrive en fait enfin une période un peu de joie où okay. J'ai quitté le lycée. Je suis en école de cinéma, c'est ma passion. Mmh. L'école supérieure, je m'épanouis quand même bien. Et j'arrive à une période de célibat, mais incroyable, où je suis en mode « Ah, je respire, tu vois. » Mes parents ne n'attendent plus. Enfin, maintenant, c'est ma vie, c'est moi qui en décide. Donc, je reprends un peu le contrôle de tout ça.
Okay.
Et je vis une épiphanie dans le célibat. Là, je rencontre des gens, c'est beaucoup plus doux. Moi, j'attends moins aussi. Je pense que je commence aussi à reprendre le contrôle de moi-même. Dans ma vie. Et je pense que ça se sent, tu vois. Je reprends un petit peu confiance. Je suis sortie... Enfin, j'ai moins de problèmes mentaux liés aux troubles du comportement alimentaire ou de l'addiction avec... Enfin, je me sors vraiment d'une histoire pas cool.
Ouais.
Donc, j'ai cette envie de vivre à fond. Et ça se voit. J'ai un bar avec des copains où je vais tout le temps. Il y a plein d'histoires super mignonnes, tu vois, où on se voit tous les mercredis. Et ça devient beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Et même le rapport à la sexualité s'apaise.
Okay.
Donc j'en attends moins, tu vois. J'essaye aussi de me reconstruire vis-à-vis de ça. Et je rencontre des gens. Et là, revient, donc ça fait un an et demi, deux ans,
okay.
Revient le fameux, la fameuse, mon crush, enfin mon amoureux actuel. Et il m'envoie un message sur les applis de rencontre, parce qu'en fait, il a toujours gardé le même profil sur Adopt.
Ouais.
Et il me dit, tu me manques. Et tu sais, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Et t'avais pas de contact avec lui? T'avais plus de contact avec lui?
J'avais plus de contact avec lui, non. Bah non. En plus, ça s'est terminé par l'acte désespéré, tu vois. Donc, ça m'avait quand même laissé un goût amer.
Ouais.
Et puis, deux ans après, je me dis, mais il a vu mon profil passer. Il s'est dit, bon, bah, je vais lui renvoyer un message. J'allais de retour parce que moi, je faisais que des... je m'enlève quand je suis en couple et puis je reviens quand je le suis pas. Et en fait, il m'a renvoyé un message. Et il m'a dit, tu me manques. Et tu vois, pour moi, je lui ai dit, mais attends, mais jamais tu m'as sorti des trucs pareils. Tu vois, même un acte de je viens vers toi pour t'exprimer un sentiment. C'était quelqu'un de très terre à terre, pas du tout sentimental, pas du tout démonstratif.
Okay.
C'était beaucoup physique, sa démonstration, pas du tout à l'oral. Et donc, ça m'a marqué. Puis alors, moi, j'ai fait la meuf en mode, t'es sûre?
Ah bon?
Je crois pas.
Ouais.
Tu vois, c'était en mode, j'avais assez de confiance pour sortir un truc comme ça, tu vois. Puis et là, je commençais à être outrée, en plus du fait que j'avais été larguée, tu sais. Genre, je dis,
j'en ai marre,
quoi. Voilà, c'est ça. Franchement, fais chier. Et en fait, il est revenu, on s'est revus. Et en fait, comme des gamins, quoi. Enfin, là, moi, j'étais déjà, rien que d'avoir un peu plus confiance en soi, ça change tout.
Ouais.
Et on avait un rapport beaucoup plus équilibré, tu vois. Moi, je vivais un peu dans Paris, chez des copains. Et lui, en plus, c'était marrant parce qu'il avait toujours le même petit appartement. Okay. Et quand je suis revenue, c'était pas la même... Enfin, tu sais, je me sentais différente en revenant dans cet environnement. Et pour lui, rien n'avait changé.
Ouais.
À part qu'il était plus élevé dans ses études. Mais sinon, en fait, c'était la même vie, quoi. Et là, on a décidé d'y aller doucement. Moi, en plus, je voyais d'autres personnes. Donc, j'étais en mode, écoute, là, je suis dans un mood où je suis bien, j'ai envie d'être légère, j'ai envie de batifoler, j'ai envie de... Voilà, et puis même, on s'est fait souffrir, donc on était d'accord tous les deux pour que ça soit hyper tranquille.
Ouais.
On y va tranquille, il n'y a pas de promesses, on n'est pas en couple, et voilà, quoi. Et en fait, il s'est avéré que ça a duré 6 mois et c'était génial. On se voyait, c'était vraiment apaisé. On avait des vrais moments de complicité. On jouait beaucoup à des jeux vidéo, on se faisait des soirées films. Il y avait les débuts de Game of Thrones à l'époque, tu vois. Donc, c'était la série dont tout le monde parlait. Donc, il y avait vraiment des moments complices où on s'attendait pour les épisodes et pour tous les sériephiles, tu vois. Ça, c'est vraiment un acte d'amour profond de se dire « je t'attends pour l'épisode suivant », quoi. Donc, on se voyait toutes les semaines. Et en fait, moi, à côté, je voyais un autre mec que j'aimais bien. Mais pareil, c'était un rapport amoureux très, très léger. Mais beaucoup plus apaisé aussi au niveau de... il y avait des moments et il y avait l'amour. Enfin, il y avait faire l'amour après. Enfin, vraiment, cette période-là, je commençais à retomber folle amoureuse de lui. Mmh. Alors qu'on avait, on avait des règles de la relation non exclusive. C'était, si on voit d'autres personnes, on se protège. On a le droit de voir d'autres personnes, mais on se protège. Moi, j'avais dit que j'avais pas envie d'en entendre parler, forcément.
Ouais.
Et puis, si jamais l'un d'entre nous tombe amoureux de quelqu'un d'autre, on se le dit et on arrête la relation.
Ok.
C'était ça, le deal. Et en fait, quand je suis retombée amoureuse de lui, que je m'en suis rendu compte, il y a eu un sentiment amer en train de me dire, en fait, il peut pas me donner ce dont j'ai besoin et envie, c'est-à-dire vraiment m'impliquer émotionnellement. C'est pas un démonstratif. Moi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin qu'on me dise des mots, j'ai un besoin d'amour. Avec tout ce que j'ai vécu, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là pour moi, qui me dise des mots d'amour, qui m'apporte tout ça. Et lui, pour le coup, je l'en sentais pas capable du tout. Et en fait, est arrivé sur mon chemin aussi un autre mec que j'ai rencontré sur Adopt, qui était plus jeune que moi. Et alors, il sortait du lycée en plus, tu vois, la boucle se répète un peu.
Ouais.
Moi, j'étais en deuxième année, tu vois, d'études supérieures. Fou amoureux de moi. Enfin, vraiment, tu sais, le garçon qui me dit je t'aime au bout de deux semaines, coup de foudre. Et ça a été super vite. On était sur les banquettes du bar, on se faisait que s'embrasser. Enfin, tu sais, c'était. J'ai rencontré cette personne au moment où j'en avais besoin, je pense.
Ok.
Tu vois. Et moi, j'étais un peu coincée parce que d'un côté, j'avais l'impression de vivre un coup de foudre avec cette autre personne qui est rentrée dans ma vie, qui était ultra démonstrative avec moi,
qui
me disait que t'es trop belle, t'es hyper intéressante, qui buvait mes paroles, qui ne me trouvait pas complètement frappadingue par rapport aux passions que j'avais, qui m'écoutait dans tout. Et vraiment, c'était ultra agréable d'avoir cette sensation-là d'être adulée. En plus, il est tombé amoureux de moi très vite et puis moi aussi. Mais le truc, c'est que moi, j'avais toujours un amour tendre pour l'autre. Et en fait, je me suis retrouvée à faire ce que je redoutais, mais ce que j'avais dit. Donc, je me suis retrouvée à lui dire, écoute, je viens d'être avec quelqu'un.
Ouais.
Ça se passe bien. Je ne le connais pas beaucoup, mais il m'apporte ce dont j'ai besoin. Donc, on arrête, parce que c'est ce qu'on avait prévu.
Ouais.
Et en fait, il m'a dit, OK.
Ok, et tout simple.
Tout simple, je suis en mode, sois heureux, je suis contente pour toi. Et tu sais, genre, on s'est dit, salut. Enfin, tu vois, il y avait un côté, on reste en contact, mais...
Et toi, t'attendais autre chose de sa part ?
Je sais pas, parce que j'étais à fond aussi
sur l'autre,
quand même. Mais ça me laissait quand même un petit goût de... C'est triste, tu vois, mais c'était une sorte de défense, parce que quand je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de l'autre, j'étais en mode, c'est pas simple non plus de retomber dans cette attente. Enfin, moi, j'avais très peur de retomber dans un rapport déséquilibré où moi, j'en attendais plus et j'avais peur de souffrir parce que je partais de loin. Donc, j'ai vécu pleinement mon histoire avec Gabriel.
Mmh.
C'était fusionnel, tendre, joyeux. C'était trop bien. On a fini par emménager ensemble. Bien plus tard. Mais en plus, lui, il commençait médecine.
Okay.
Donc, il y avait ce rapport où moi, c'était parfait parce que il m'avait dit d'un air grave, je commence médecine, tu vois, donc tu ne vas jamais me voir en première année, voire deuxième année si je redouble. Est-ce que tu es prête à t'engager avec moi dans cette chose ? Et j'étais, moi, j'ai ma vie, donc je commence à être à peu près à me reconstruire, donc c'est trop bien. On se verra quand on se verra. Vis ton truc. Et voilà. Et en fait, ça m'a donné mon indépendance et c'était chouette. Donc, ça a bien fonctionné, en fait, mine de rien, médecine. Et j'ai pas eu de complexe du sauveur. Je me suis pas dit, je vais m'occuper de lui pendant qu'il fait médecine. Tu vois. Je
Trop
vivais
bien.
Ma vie, c'était sain.
Mmh.
Et c'est la première fois que j'avais autant d'estime de moi, en tout cas, que je me sentais en confiance et aimée. Donc, je pense que ça a vraiment marqué aussi ma vie. Amoureuse de ce côté-là. Et je pense que je le souhaite à tout le monde, tu vois, d'avoir ce sentiment de sécurité pour une fois et que ce soit sain. Et en fait, c'est juste que j'ai un jour à Nantes, bien plus tard, j'ai recroisé Louis.
Louis avec qui tu étais, ok.
Avec mon amoureux, enfin, j'ai pas donné son prénom, oui, c'est vrai, mais qui s'appelle Louis.
Ok.
Et en fait, je l'ai recroisé.
Et tu l'as croisé par hasard ? Ou c'était un petit rendez-vous ?
Je sais plus comment ça s'est fait, mais j'étais à Nantes. Et oui, je crois qu'on s'est recroisé par hasard.
Ok.
Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me fait, je suis retournée chez mes parents à Nantes parce que j'ai plus de travail pour l'instant. Je suis dans autre chose. Donc voilà, je suis revenue là de façon provisoire. Et en fait, c'est là où il m'a dit, on a pris un verre ensemble et il m'a dit, j'aurais jamais dû te laisser partir. et la boucle recommence, ouais. Vraiment. Et ça s'est terminé où moi, j'étais entre les deux. Ouais. Je suis partie complètement en live dans ma tête.
Bah oui, mode, tu m'étonnes.
J'étais là en mode, oui, bah, de toute façon, moi, j'ai toujours été amoureuse de toi. Donc, finalement, deux personnes à aimer, c'est bien aussi, tu vois, pourquoi on choisirait qu'une personne. Je me dis, c'est la première fois que je me retrouve dans la position où j'ai deux personnes. Et donc, on n'avait pas ouvert notre couple avec Gabriel. Pas du tout. Enfin, donc pour moi, c'était une trahison, tu vois, que d'enclencher voilà une retrouvaille avec un ex, c'était dur. Et pourtant, je me suis pas arrêtée, tu vois. J'ai fait un peu cette, je dirais pas cette connerie parce que c'était pas, mais pour les autres, c'est pas forcément évident, tu vois, de vivre ça. Donc je m'en veux beaucoup maintenant de l'avoir fait,
mais d'avoir trompé. Oui, du coup, tu t'es retournée dans les bras de...
Je suis retombée dans ses bras. Enfin, je veux dire, on a passé une semaine à Nantes, ouais. Un peu isolée, où on s'embrassait beaucoup, on se disait beaucoup de choses tendres. Moi, j'étais en mode, oh, de toute façon, on peut se voir quand je viens à Nantes, tu vois. Mmh. Et en fait, c'était déjà la porte ouverte à quelque chose de tromperie, quoi, tout simplement. Et puis, on a failli coucher ensemble et ça ne s'est pas fait parce que là, je me suis arrêtée en me disant, bon, écoute, là, c'est ma limite, je pense. Pour moi, c'était un point de non-retour et j'ai mis un haut là en disant non, c'est trop compliqué. Et là, ça devient un peu important dans le sens où, dans la suite de l'histoire, ce haut là a mis fin à quelque chose, à une nouvelle porte fermée avec Louis. Et on s'est retrouvés en 2015, fin 2015, donc à Paris, pour ceux qui l'ont vécu ou pas, parce que ça a marqué un peu tout le monde, il y a eu les attentats. Ouais. Et moi, j'étais au cœur des attentats à côté, dans un bar. Et forcément, Louis s'est donné la peine de m'envoyer un message pour me demander comment ça s'était passé pour moi et si j'allais bien, et parce qu'il savait que je traînais beaucoup dans le 11e et que c'était un peu mon quartier de sortie de prédilection. Et alors là, mon rapport à l'amour a complètement changé.
Okay.
Parce que je me suis complètement... J'étais toujours avec Gabriel.
Ouais.
Et là, j'étais en mode, bon bah... on va tous mourir, YOLO, soyons tous amoureux les uns des autres, il ne faut pas réfréner les sentiments, donc je donne tout, tu vois. Donc là, j'étais en mode, ça y est, je vais être... de toute façon, j'aime deux hommes, je veux être polyamoureuse, en plus, je découvrais un peu de nouvelles façons de vivre son couple et d'ouvrir aussi son couple. Donc ça m'a beaucoup fascinée à ce moment-là. J'ai foncé dans les bras de Louis quand on s'est retrouvés avec ça. Et toujours dans le dos de Gabriel, tu vois, avec qui j'ai commencé aussi à ouvrir la discussion après, de dire on vit ensemble, mais là j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs, de vivre pleinement les choses. Je lui ai pas dit que j'étais amoureuse de quelqu'un, mais je voulais y aller petit à petit pour déconstruire ensemble quelque chose, tu vois, c'était ça. Et en fait, Louis, je lui ai même pas demandé son avis. Je lui ai pas dit. Enfin, lui, il savait que j'avais quelqu'un, tu vois. Mais genre, pour moi, c'était en mode oui, mais moi, je reste avec lui parce qu'il me fait du bien.
Ouais.
Mais je te prends aussi parce que, genre, ça fait trop longtemps qu'on se recroise. Donc, vas-y, on fait un micmac. Et c'était moi au cœur du truc. Et il y avait une sorte d'ego trip que je me suis créée dans ma tête avec des attentes de la part des deux. Qui cède à tous mes désirs. Et à cette époque-là, vraiment, je pense avoir un peu vrillé. Tu vois. On était tous dans cette espèce d'attente de savoir ce qui allait nous tomber ensuite sur nous.
Ouais.
Et moi, j'étais vraiment en mode, on vit les choses à fond, on s'aime, c'est beau, il ne faut pas se poser de questions, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, il n'y a plus de limites. Et je pense que c'était complètement con, hein, avec le recul, tu vois. Vraiment, tu sais, genre, j'ai pas du tout pris en empathie ce qu'ils pouvaient ressentir et l'un et l'autre.
Ouais.
Et ça a vraiment été un truc dont, je m'en suis rendu compte bien après, en me disant, avec le recul, je comprends que je me suis pris un gros bâche juste après, quoi. Parce que là a commencé un autre rapport très conflictuel avec Louis. Où on se disputait beaucoup, où il y avait beaucoup de oui-non, moi je voulais le voir tout le temps. Enfin, on recommençait un rapport très déséquilibré, tu vois, où moi j'étais beaucoup en attente de lui, quand ils me répondent, enfin quand ils se montraient très froids et distants avec moi, on jouait au chaud froid et je me souviens de coups de fil où je lui laissais des messages vocaux où j'étais en mode mais pourquoi tu me fais ça avec Gabriel qui comprenait pas aussi pourquoi je voulais ouvrir notre couple. Enfin tu vois c'était
quelque chose quand même pour toi à ce moment-là quoi.
Ouais mais puis j'étais en mode ouais de toute façon moi j'ai toujours été libérée donc je vois pas pourquoi la monogamie ça me conviendrait. Ouais. En plus on parlait beaucoup plus de ça aussi c'était en 2015-2016. Moi, je commençais aussi à m'éveiller au féminisme, à différentes façons d'être moins hétéro aussi, peut-être, tu vois. Donc, il y avait quand même cette recherche de changer de rapport conventionnel du couple. Et puis, en plus, au bout d'un moment, la routine s'est installée. Ça faisait quelques temps qu'on était ensemble avec mon ex. Et du coup, ça prenait du temps, quoi.
Bah, oui.
Enfin, c'est pas que ça prenait du temps, mais non, je dis n'importe quoi.
Ça
prenait de la place, on était très routiniers, et puis en fait, on n'était pas du tout les mêmes au niveau du caractère.
Okay.
Moi, j'aimais le cinéma, j'aimais voir des copains, j'aimais voir des concerts, je sortais beaucoup toute seule. Lui, il venait jamais avec moi, mais on était très tendre envers l'autre. Finalement, en fait, j'admettais pas que je m'éloignais aussi de lui. Et que le côté lune de miel était aussi passé depuis un petit moment, et que finalement on était. Mais il y a tellement, encore aujourd'hui, beaucoup de tendresse entre nous que quand on s'est séparés, il y a eu un ou deux ans avant où ça a été un peu dur, mais on garde toujours un amour qui a changé, mais qui est toujours là, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup d'affection pour lui, j'aime beaucoup prendre de ses nouvelles, on s'aime beaucoup, je pense, au fond. Et puis on a grandi ensemble. Enfin, c'est des relations où ça a commencé. Moi, j'avais 21 ans, lui 18. Et finalement, on se construit énormément dans ces périodes-là. Et je pense que j'ai toujours quand même été sincère. J'ai un peu foiré mon côté bienveillant à l'époque où je mettais les mots. Enfin, tu sais, je faisais. Avec le recul, voilà, c'est pas que je mentais, mais on va dire que j'essayais d'anticiper, de préserver au maximum les sentiments de l'un et de l'autre. Donc forcément, il y avait de l'omission. Donc je disais pas que je voulais être polyamoureuse à mon copain. Par contre, je lui disais, j'ai envie d'ouvrir notre couple en premier. Tu vois, donc je cachais des choses et j'étais pas très à l'aise avec ça.
Oui, parce que toi-même, t'étais quand même un peu dépassée par tout ça, j'imagine. Le fait d'aimer deux personnes, de ne pas savoir comment réagir face à l'un, face à l'autre, ça faisait beaucoup.
C'était un amour extrêmement idéaliste et sincère, tu vois. Enfin, comme moi, j'ai toujours été très, très entière dans ma dévotion. Enfin, je suis très dévouée.
Ouais.
J'aime être là pour les personnes que j'aime. J'aime être là pour eux. J'aime leur faire des cadeaux, qu'on vive des choses un peu passionnément. Enfin, c'est ma façon d'aimer. Qui est très très entière, très très vraie, et j'aime bien me donner corps et âme à la personne que j'aime. Et en fait, je comprenais pas pourquoi j'avais pas ce retour-là de Louis aussi, mais qui n'était pas du tout dans cette disposition-là, en fait, lui, à chaque fois. En plus, il y avait ce sentiment de vouloir repartir de zéro à chaque fois qu'on se retrouvait. On y va tranquille, tu vois. Alors que moi, j'étais en mode, mais attends, toute notre histoire, elle est incroyable. Donc, il faut être à la hauteur de cette histoire incroyable. Maintenant, on doit s'aimer, mais follement. On doit se faire, tu vois, alors que non, pas du tout. Lui, il était en mode, cool, quoi. J'étais devenue hyper exigeante aussi avec mon rapport à l'amour. Okay. C'était, je veux qu'on m'aime comme j'aime les autres.
Ouais.
Et j'ai trop souffert, donc maintenant, je mérite. Que mon histoire, elle soit comme dans ma tête et elle doit être à la hauteur de mon fantasme. Et je faisais énormément de projections.
Ouais.
Et en fait, c'était invivable aussi, tu vois. Donc, ça s'est apaisé encore après. Il y a eu toute cette période où Louis est parti. On s'est redispatché. Ça s'était arrêté. Puis je me suis dit, ça y est, là, c'est vraiment... c'est vraiment la fin, on va pas forcément se revoir. Mm-hmm. Tranquille, quoi. Moi, j'ai ma vie avec Gabriel.
Ouais.
Donc, je veux plus vivre. je m'investis là-dedans, on vit ensemble.
Okay.
Donc, je continue ça. Mais j'ai quand même ouvert mon couple. On a quand même discuté de certaines règles. Lui, il comprenait pas forcément, mais ça a été le début de se dire on veut des choses différentes.
Mm-hmm.
Et on a fini par se séparer. Lui, il a déménagé. Et puis. Moi, je suis restée à Paris.
Alors, vous vous êtes séparés. Comment ça s'est passé, la séparation, au bout de
combien
de temps?
Ça ne s'est pas fait très rapidement. Ouais, ça a été beaucoup au fur et à mesure. Au fur et à mesure, des conversations. Il y avait une règle avec l'ouverture de notre couple, c'était qu'on ne se pose pas de questions de qui on voit ou quoi ou qu'est-ce. En plus, lui, il avait une vie complètement différente de la mienne parce qu'il était dans l'univers de la santé. Donc, il y avait beaucoup de fêtes de la santé qui ne sont pas du tout les fêtes que moi, je faisais. Ouais. Donc, on mélangeait plus du tout nos univers et c'est devenu une colocation, finalement, avec tendresse. Mais il y a eu aussi le fait que moi, j'allais voir ailleurs, mais que, avec son autorisation, avec ce qu'on avait décidé, mais que nous, on n'avait plus d'intimité.
Ok.
Et finalement, au bout d'un moment, tu ouvres les yeux, quoi, je pense. Et c'est là où, au fur et à mesure, tu vois, on discutait beaucoup de... on s'aime toujours, mais peut-être différemment. Et de le réaliser, tu vois, au fur et à mesure des conversations, en disant, on n'est plus un couple amoureux, on est autre chose. Mmh. On est presque plus du sentiment de la famille. Ouais. D'ailleurs, quand je lui avais dit ça, il avait pété un câble en disant... Oui. Pourquoi tu me dis ça? Je suis pas ton frère. Enfin, tu vois. Je t'aimais, non, mais c'est
un attachement hyper fort.
Un attachement hyper fort, mais plus de sentiments amoureux. Okay. Et ça a fini par se finir comme ça. Et ça s'est fait sur des, enfin, pas des années, mais on a mis peut-être 2 ans à rompre, je pense. Quand même, ouais. Et puis ça faisait un moment que Louis était plus dans ma vie, mais en fait, il y avait un ami qu'on avait en commun qui faisait son anniversaire tous les ans.
Okay.
Et en fait, je savais qu'à chaque soirée, je le croisais, tu vois. Et je rappelle que on avait les dernières fois qu'on s'était vus, c'était quand même assez conflictuel. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de souhaiter l'anniversaire de mon pote, mais j'ai pas envie de le voir parce que je sais que je vais souffrir, que je l'ai encore dans la tête, et que j'ai pas, enfin, j'avais le deuil de l'histoire avec mon ex, mais je me rendais compte que j'arrivais pas à faire mon deuil de lui. Que toutes les étapes du deuil, tu vois, n'étaient pas faites et que je n'y arrivais pas à me sortir de la tête et que j'y pensais et que j'appréhendais avec le cœur qui palpite, les papillons dans le ventre, le fait que j'allais peut-être le voir à cette soirée. Et en fait, je suis pas venue en 2019 à l'anniversaire annuel de fêter dans un bar de cette personne. Et il y a un soir, à 2h du matin, en mars, donc ça fait peut-être 2 ans qu'on s'est pas parlé, j'envoie un long message à Louis, un très long message, un peu comme, enfin, un peu littéraire, tu vois, c'était la lettre, du Georges Sand, enfin vraiment, tu vois, je me sentais telle Musset dans la nuit, envoyer une lettre d'amour dans un pavé en disant
une lettre sur WhatsApp,
à quoi bon, je n'arrive pas à t'oublier, c'est quoi ça, et puis
dès
que je repasse, enfin très drama, très très mélancolique, très très déclaration passionnée, quoi, vraiment. Et en fait, il m'a répondu en mode... Il m'a tout de suite dit « Alors, je ne serai pas aussi poète que toi, tu vois. » Je l'ai dit vraiment, je tombe des nues. Ton message m'a surpris, mais ne t'attends pas à ce que je te réponde de la même façon. Ouais. J'en suis incapable. Mais OK pour un verre, quoi.
Okay.
Et en fait, on s'est vus et on a mis les choses à plat. Et on a vraiment parlé en essayant de tout remonter. Depuis notre première rencontre et de tout ce qui s'était passé, de poser des mots dessus, puis surtout parler de toute cette période ultra conflictuelle qu'on avait eue. Et en fait, on a beaucoup parlé du rapport, des attentes de l'amour et de ce qu'on avait. Parce que c'est vrai qu'on a grandi aussi avec notre évolution chacun de son côté. Et moi, je lui ai dit à ce moment-là ce dont j'avais envie, plus envie. Je me suis rendu compte que j'avais exigé beaucoup de choses, que j'avais pas forcément fait attention à l'autre, que j'avais pas forcément pris en considération des sentiments autres que les miens. Je pensais que mon amour romanesque prévalait sur le reste, mais en fait, tout le monde n'aime pas de la même façon. Ouais. Et j'ai compris, en fait, que lui, il m'a dit, mais tu sais, c'est dur, en fait, d'aimer quelqu'un, enfin, de potentiellement imaginer une histoire avec quelqu'un, mais qu'elle est en couple et qu'elle veut pas le quitter. Il a dit, mais tu t'imagines pas quel rapport j'ai eu. Et en fait, on n'avait jamais discuté
parler de
ça.
Ouais.
Mettre des mots vraiment. Et puis lui, c'est pas un bavard du tout. Donc, c'est quelqu'un de très terre à terre. Et là, j'ai découvert quand même une sensibilité que je recherchais. Mais en plus, évidemment, tu sais, t'as l'environnement à côté.
Ouais.
Moi, j'avais des rapports amicaux très forts. Donc, j'avais des amis très proches avec. On avait beaucoup d'empathie les unes pour les autres. On s'aime beaucoup, on parle beaucoup. Donc, les langues, c'était en mode oui, mais il est toxique. Votre histoire d'amour, elle est complètement. C'est n'importe quoi. Lui, il est encore de retour. Tu sais, t'avais ce côté. Encore lui, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc elle me mettait en garde et elle m'a dit, mais pourquoi t'as envoyé un message à 2h du matin à ce type, quoi? Et il y avait des raisons, il s'est montré, il s'est comporté comme un goujat à plusieurs reprises, mais en fait, moi aussi, j'avais des torts. Ouais. C'était ça qui en était resté. Et en fait, bah, ça s'est bien, bien passé. C'est-à-dire que vraiment, toute l'année, il y a eu l'été qui est passé, on s'envoyait des messages, on rigolait. On a repris un rapport de séduction beaucoup plus doux. Et en fait, là où on a commencé à se dire qu'on avait envie de vraiment d'être ensemble, c'était fin 2019, donc début 2020. COVID. La pandémie est arrivée. Ouais. Forcément, lui, il est parti à Nantes, donc relation à distance. Moi, je me suis dit, mais
toi, t'étais à Paris, il est parti à Nantes.
Ce qu'on oublie peut-être à l'époque pour les Parisiens et les Parisiennes, ouais, c'est qu'il y avait des putains de grèves à ce moment-là, de toute la fin.
Je me souviens pas.
Toute la fin 2019, il n'y avait plus aucune ligne qui marchait. Il y avait tout un. Je sais pas, il y a dû au moins 2-3 semaines où tout le monde était à pied, où il y avait très peu de métro ou quoi, ou qu'est-ce. Et là, j'étais en mode, mais on va affronter les grèves, tu vois. Enfin, c'était un peu ça. Puis après, il y avait la pandémie. J'étais en mode, oh non, j'en peux plus, tu vois. Vraiment, j'étais en mode, mais vous voulez pas me laisser vivre mon histoire avec lui. Surtout que ça commençait vraiment à devenir cool, quoi. Vraiment, là, on était sur la même longueur d'onde. On commençait vraiment à être sentimentaux l'un envers l'autre. Et donc, on a vécu séparés. Je suis allée le rejoindre en mai, à la boule. Donc, c'était vraiment chouette. Après, il y a eu des choses qui se sont mises en travers, mais finalement, notre rapport a très peu changé, tous les deux. Enfin, maintenant, la fin de l'histoire de cette histoire d'amour, c'est que je vis avec cette personne aujourd'hui dans un nouvel appartement avec un chat que j'ai adopté et en fait que lui a fini par adopter aussi, du coup, parce que il l'a connu toute chaton. Et on vit comme, vraiment là, on est hyper heureux et ça se passe trop bien, c'est hyper apaisé. Et ce que je retiens un peu de tout ça, c'est vraiment que moi, j'ai arrêté de partir dans des histoires complètement romantisées, complètement romanesques, parce que finalement, le quotidien est très tendre. Et je pense que j'ai appris à aimer la tendresse qui est beaucoup moins passionnelle. Parce que je pensais que voilà, il fallait être passionnel et fusionnel pour vraiment être dans le total sentiment amoureux et connaître ça, mais vraiment de pouvoir juste se laisser porter par la tendresse et l'intimité, parce que même notre rapport à la sexualité a beaucoup changé également. Okay. Parce que c'est vrai que quand on se revoit au fur et à mesure des années, quand on se revoit tout le temps et qu'il y a ce côté il revient dans ma vie à chaque fois. C'était un ultra peu passionnel au niveau du lit. C'était incroyable. Il y avait l'alchimie de fou et c'est ce qui nous, c'est ce qui nous retenait l'un à l'autre aussi pendant un moment. Et c'est vrai, quoi. Parce qu'on partageait pas forcément tout le temps non plus les mêmes centres d'intérêt communs. Et là, en fait, c'est la première fois que la sexualité n'est plus au cœur de notre couple. Vraiment pas. Et on a mis beaucoup de temps aussi à ne pas en souffrir. Dans notre tête, on s'est dit, oh là là, mais
bizarre,
avant, ça fait 10 ans qu'on est hyper fusionnel au lit et que là, d'un coup, d'un seul, on n'est plus lié par ça et qu'on n'a plus trop envie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on ne va plus bien être ensemble.
Ouais, c'est l'évolution, en fait, après toutes ces années. Le fait de vivre ensemble aussi, j'imagine, qui a changé certaines
choses. Ouais, puis il y a la pression sociale, tu vois, de se dire, il faut avoir des rapports toutes les semaines pour être bien ensemble ou quoi, ou qu'est-ce. Et en fait, maintenant, on est tellement beaucoup plus tendre, beaucoup plus complice. On rigole énormément. On partage beaucoup plus de choses. Enfin, jamais j'aurais pu penser. Bon, c'est pas une insulte envers lui du tout, mais c'est juste qu'on a développé un rapport à la discussion où il y a plus cette notion de différence d'âge, de que nos quotidiens maintenant se rejoignent.
Ouais.
Donc finalement, en fait, on est beaucoup plus libre de parler de plein de choses. C'est beaucoup plus équilibré maintenant. Et du coup, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir un peu un happy ending avec quelqu'un sur lequel j'étais tombée amoureuse il y a 10 ans, que j'ai jamais cessé d'aimer, et que même si j'ai eu d'autres personnes dans ma vie à côté,
il était toujours dans un coin de ta tête.
Il était toujours dans un coin de ma tête, et c'était très... très agréable.
Et là, tu t'imagines du coup faire ta vie, continuer ta vie avec lui? Vous avez des projets ensemble?
J'en sais rien. Je pense que moi, je suis un peu. Pour le coup, je reste toujours un peu au jour le jour. Ouais. Tu vois, je pense pas, je fantasme pas sur le côté homme de ma vie, finir sa vie avec quelqu'un. Après, je trouve ça très agréable de se laisser, de sentir en sécurité et vraiment qu'on a touché l'intime tous les deux et qu'on s'apporte mutuellement des choses et que du coup on ait créé un foyer, tu vois, ça me plaît.
Ouais.
Et là on a un petit chat, enfin tu sais, c'est, on est bien, on est dans une nouvelle maison qu'on a décorée tous les deux, et vraiment rien que ça, ouais, ça me fait du bien, et de vivre sur le moment. Et puis surtout, moi je me sens beaucoup plus en phase aussi avec moi-même.
Ouais.
Où je garde quand même mon petit côté passionné
oui, tu peux pas
et romanesque. Voilà, ouais, tu vois, ouais. Je suis une indéniable romantique avec une grande sensibilité. Ouais, ouais. Mais il respecte aussi ça, tu vois. Je m'emballe sur des crushs fictifs, sur des fanfictions, j'écris de l'amour. et bah, vraiment, l'amour passionnel,
ouais,
tel que je l'imagine, avec une idéalisation de l'amour.
Ouais.
J'adore du coup lire... lire des personnes, enfin j'adore lire voilà des textes amoureux, des échanges épistolaires aussi. J'adore le cinéma pour ça, les séries aussi. Enfin, je m'accroche beaucoup à la fiction justement pour vivre pleinement mes envies.
Et il te laisse vivre ça.
Il me laisse vivre ça, tu vois, il est en mode oui, vas-y.
Fais-toi plaisir.
Fais-toi plaise, aucun problème. Il a dit. Tu sais, il me regarde en soufflant, il fait oui, ouais, bon. Mais ouais, entre nous, c'est devenu plus apaisé. Et je me sens bien aussi dans un rapport d'indépendance,
ouais,
où chacun,
oui,
a sa vie, ses passions. On accepte l'un et l'autre comme il est, avec nos caractères. Mais on a réussi à trouver un équilibre.
Ok.
Donc, c'est top.
Et tu penses qu'il a fallu passer par toutes ces étapes en 10 ans pour être bien maintenant avec cette personne ? Pour que vous soyez
je
bien ?
Je pense, ouais. Honnêtement... je pense qu'on a tous des... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de blessures. Mmh. C'est aussi, tu vois, en faisant un peu le récap de ces années, ouais, il y a, oui, vraiment eu beaucoup de blessures à penser. Mmh. Et ce rapport biaisé à la sexualité qui m'a rendue beaucoup... Enfin, très triste, ouais, aussi pendant longtemps, où je pensais que j'étais pas assez bien pour être aimée, tu vois. Ça, ouais, ça m'a pas quittée pendant très longtemps. Et ça, des fois encore, ça rechute. Hein. Il y a des moments où j'ai pas confiance en moi, en amour. Mais après, je pense que ça m'a fait réaliser que l'amour dans le couple, enfin dans un couple avec un homme, pour ma part, n'est pas suffisant non plus. C'est-à-dire que j'ai développé aussi, je me suis plus investie dans mes relations amicales, plus investie dans mes relations familiales, de pouvoir parler de sentiments, de dire aux personnes de mon entourage que je les aime.
Ouais.
J'ai un rapport très fusionnel avec ma petite sœur, par exemple, et on dit qu'on s'aime beaucoup, qu'on a traversé des choses. Et en fait, ça s'équilibre, tu vois.
Oui.
J'essaye de, voilà, de déloger un peu
ouais, l'amour. Tout ce que tu mettais du coup sur une personne.
Tout ce que je mettais sur une seule personne. Ouais. En fait, je le mets partout, tu vois. Et
ouais,
j'ai la chance d'avoir des relations hyper chouettes avec mes amis, avec les meufs de mon entourage, parce qu'elles sont top. Et voilà, on essaye de vraiment de mettre de l'amour aussi dans ces, ouais, relations-là, de plus en plus, sans se censurer,
ouais,
pour pouvoir distribuer de l'amour encore plus, quoi.
Ouais.
C'est ça. Et je pense que c'est important d'évaluer aussi l'amour amical, de pas le dénigrer en disant c'est, voilà, on peut avoir des sentiments aussi puissants que le sentiment amoureux avec la personne qu'on aime, mais que ça peut aussi se décaler sur sur, ouais, ses, ouais, amis. Et
l'amour amical est toujours là,
mais exactement. Exactement. Et il peut y avoir des conflits aussi, bien sûr,
ouais,
mais c'est bien. Voilà, du coup, je me suis plus apaisée, j'ai donné de l'amour autour de moi de façon plus équilibrée. Et du coup, je me sens mieux dans mes bottes.
Qu'est-ce que tu en tires du coup de ces 10 dernières années, si tu devais conclure sur tout ce qui s'est passé pour toi, à ce niveau-là, au niveau sentimental, bien sûr.
Bah, je suis contente de ne pas avoir lâché,
ouais,
mine de rien. Tu vois, je me suis quand même... Il y a un truc, j'aurais pu très bien ne pas fantasmer l'idéal. Et finalement... Je me dis, ça a payé quand,
ouais,
même, tu,
bon,
vois. Que j'ai pas rejeté non plus mon côté romanesque, parce que vraiment, je l'ai... Voilà, quand j'ai écrit ma lettre d'amour, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, lui, il n'est pas du tout lettre d'amour.
Ouais.
Déjà, quand je l'ai écrit aussi pour moi.
Oui, oui.
Mais c'était important que je reste fidèle à ce côté-là de moi-même. Et je suis contente d'avoir retrouvé de l'amour pour moi aussi. Que je me dis, je peux pas tout mettre donner aux autres, il m'en faut aussi pour moi,
ouais.
Et je suis contente de pas avoir joué un rôle. Et d'avoir tenu aussi, je me dis, bon, bah, j'ai foncé, je dis, si les gens me rejettent, au moins je leur ai dit que je les aimais ou j'ai été sincère quand même dans mes démarches sentimentales et c'est ce que je retiens, tu vois. Et qu'au final, ouais. En fait, bah, c'est pas grave, en fait, de vouloir être aimé. C'est chouette aussi de s'être pris des bâches pour ensuite grandir et évoluer. Donc, j'essaye de porter un regard bienveillant, tu vois, sur toutes les erreurs que j'ai pu faire et de me dire, bon, bah, c'est comme ça. Et ça m'a apporté aussi un bonheur maintenant. Et peut-être que ça changera, hein, ça se trouve. Ouais. On est assez libre du moment. Là, notre credo, c'est vraiment que du moment qu'on est heureux et qu'on se sente bien avec nous-mêmes, que chacun respecte l'espace de l'autre, ses passions, sa philosophie, sa vérité, son caractère. En fait, c'est chouette, quoi.
Trop bien. Et là, ça fait 2 ans, du coup, que vous êtes à nouveau.
Là, ça fait, ouais, ça fait 2 ans. Mais en fait, avant, ça m'importait d'avoir une qualité un peu en mode, ah oui, c'est important, une relation de 6 ans, ça veut dire quelque chose. Mais en fait, pas du tout, quoi. Ouais. Enfin, là, les 2 ans, ils sont passés super vite.
Oui, bah, surtout, t'as vu nos 2 dernières années, c'était n'importe
surtout
quoi.
Surtout nos 2 dernières années, exactement. Mais ça a été intense, hein, quand même. Bah, c'est une construction, ça peut très cristalliser beaucoup, beaucoup de choses, finalement, dans des relations sociales, je trouve.
Ouais.
Mais voilà, ça m'a permis aussi de me rapprocher d'autres personnes, mes meilleures amies, ma sœur, ma famille aussi, on se dit beaucoup de choses. Mmh. Et maintenant, je donne mon énergie toujours avec bienveillance, et c'est chouette.
Voilà. Merci beaucoup, Margot, de nous avoir raconté toute cette histoire.
Bah, avec plaisir.
Merci à toi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu me diras peut-être si j'ai un podcast amour dans 10 ans, où t'en seras.
Mais avec
ça,
grand
c'est
plaisir.
Un truc que j'aimerais trop faire à chaque fois. Je me dis, tiens, quelques années plus tard, tu vois, qu'est-ce que tout ça devient.
C'est tout le temps en mouvement, donc bah oui, c'est logique, en fait. On ne peut pas figer une histoire pour l'instant, c'est cool. Ouais. Ça se trouve, il y a d'autres pas épreuves, mais
bah, on voit
d'autres étapes
toi,
de la vie. Ouais. Donc, faut pas en avoir peur non plus.
Ouais.
Donc, c'est cool.
Merci,
avec plaisir. Merci, Léa.